C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
8h48, voilà un sujet qui fait l'objet de débats depuis quelques jours, évidemment. La question, doit-on libérer les seins et tolérer qu'une femme s'expose seins nus dans l'espace public? Nathalie.
Ben, t'as raison de dire que le sujet est très polarisant. En fait, j'ai envie de te dire, Paul, ça dérange qui de voir une femme seins nus sur un banc de parc ou encore se faire bronzer? Honnêtement, ça dérange qui? La question derrière ça, c'est qu'est-ce qui est acceptable socialement, qu'est-ce qui est indécent et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que les jeunes femmes qui sont à la tête de ce mouvement, libérer les seins, hashtag free the nipple, parce que c'est pas un mouvement qui date d'hier, elles prétendent que c'est un combat politique qui dépasse les seins. En fait, c'est un combat féministe que certaines qualifient même de capital. Notre réflexe, c'est de dire, ben voyons donc, il me semble qu'il y a des gens qui ont des femmes qui ont du temps à perdre. Faut savoir que c'est pas si farfelu que ça parce que la loi permet aux femmes et aux hommes de se promener torse nu en public. D'ailleurs, un des arguments qui est évoqué, ben, quelle est la différence entre ton torse à moi, à toi, Paul, et mon torse à moi? Je sais ce que tu vas me répondre. Toi, tu as des seins, puis moi, j'en ai pas, peut-être. Mais c'est quand même ça la question fondamentale. En fait, c'est jusqu'où notre société québécoise, qui se dit progressiste et tolérante, peut accepter que les femmes se promènent seins nus? C'est ça la question.
Luc? Mais moi, je dis comme la ministre Charest, go les filles, go, go, go! D'ailleurs, je vais être à la manifestation. Est-ce que c'est confirmé, la manifestation?
Ben, oui, date, oui, là, le dimanche. Juin.
Bon, ben, je vais être là. Moi, ben, j'ai sorti déjà mon habit d'arbustre. Je vais me tenir sur le côté de la manifestation.
Tu vas être déguisé en arbuste?
Oui, c'est ça, mais je vais arriver tôt parce que comme j'y vais en bicycle, je voudrais pas... avoir l'air de...
de
ça va être facile à reconnaître, là. Tu sais, j'arrive en arbuste, en bicycle, je vais mais...
C'est la fin de semaine du Grand Prix, hein?
Ah, plus? Oui, OK. Ah, ben écoute, ça va attirer le touriste, c'est parfait. Oui. Tu sais, Montréal, c'est l'épicentre de la femme sans soutien-gorge. Pour ceux qui ont voyagé un peu, là, puis le plateau, c'est l'épicentre de Montréal en la matière. On a tout ici, le sein baladeur sous la blouse, le sein pointu, le mouvement de face, le mouvement de côté, la camisole qui fait voir les fameux side boobs. Je te dis qu'on est gâtés. Et puis, moi, je suis bien d'accord pour ça. Mais par contre, je trouve que le discours qui accompagne ça est lamentable. C'est vraiment... C'est pas un discours, d'ailleurs. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'avoir de discours. La décision est prise. Là. Chaque femme fait comme elle le veut. Si elle veut se montrer les seins, elle se les montre. Puis nous autres, on en profite. Ça fait partie du paysage. C'est super. Mais quand j'entends des femmes dire « Ah, mais de toute manière, c'est pas un objet sexuel. Le sein n'est pas un objet sexuel. » Puis la première phrase et la deuxième phrase. Puis de toute manière, si c'en était un, les hommes, vous avez juste à vous contrôler. Ces deux phrases-là, font juste pas de bon sens. T'sais, premièrement...
Hashtag gère ton pénis, Luc Ferrandaise.
Oui, c'est ça, sûr, mais c'est clair. Ça, on le fait depuis qu'on a 14 ans. Je veux dire, c'est entendu, ça. Écoute, la testostérone, c'est une affaire à gérer. Ça, depuis que t'es jeune, t'apprends ça, puis il n'y a aucun problème là. Mais si tu veux vraiment engager une discussion puis dire est-ce que... Ben, je pense que la discussion devrait s'arrêter à « j'ai le droit de le faire, je le fais ». Là, ça, tout ça, c'est légitime. Après, quand tu dis « le sein n'est pas un objet, n'est pas un attribut sexuel », bon, là, tu rentres premièrement dans du négationnisme. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. C'est dur. C'est pas vrai. Peut-être que c'est vrai pour toi, mais il n'y a pas eu un référendum de toutes les femmes qui ont dit « Moi, je considère que mes seins ne sont pas des attributs sexuels. » Parle pour toi. Ne parle pas pour les femmes. Pour les femmes, les seins ne sont pas des attributs sexuels. Ben, voyons.
Il y a des féministes qui disent, notamment des jeunes filles, qui disent « Un instant, je libérer les seins, c'est libérer son corps. C'est dire « Je peux disposer de mon corps comme je l'entends. »
Tant mieux qu'elle dise ça pour
oui,
elle.
Oui, absolument. Tant tout à mieux. Fait. Et il y a des jeunes femmes qui s'insurgent. Par exemple, prenons le legging, OK? Parce qu'il y a une mode là, des leggings très, très serrés. Vous avez vu ça. Il y a des jeunes femmes qui s'insurgent de savoir que parce qu'elles portent un legging serré, elles font l'objet de regards différents. Tu comprends? Je te dis que ça alimente ce discours d'une espèce de néo-féminisme qui dit, ben, le corps, là, ben, tu comprends, c'est pas seulement un objet, c'est pas seulement attribuable à des attributs, qui réfèrent à des attributs sexuels, c'est plus que ça. Mais quand tu dis, Luc, ne pas porter de sous-vêtements ou de soutien-gorge, ça, c'est une chose. Mais là, parce que je pense que ça, honnêtement, les gens s'en fichent pas mal. Que tu portes un soutien-gorge ou pas, ou même un homme qui se promène sans sous-vêtements, je pense que ça, honnêtement, ça suscite pas de débat. Là où ça suscite un débat, c'est de te promener sur la place publique avec les seins nus. En fait, jusqu'où on peut aller? En France, qui est la société souvent de référence comme une société hyper ouverte, là, le monokini sur les plages en France, aujourd'hui, c'est pas mal moins permissif que ça l'était.
C'est-à-dire que c'est tout... Nathalie, je peux faire une correction parce que j'ai fait les mêmes recherches que toi, j'imagine. C'est tout, encore tout à fait permis. Le problème, c'est que c'est beaucoup moins pratiqué. Les statistiques, c'est que c'est 19 % seulement des Françaises qui le font. Il y a 16 % seulement des Françaises de moins de 50 ans.
On dit à peu près la même chose,
ouais,
en
c'est
fait.
Ça. Ouais, mais c'est permis. C'est permis. C'est juste que les femmes ne veulent plus le faire.
Mais c'est la même chose ici. En fait, c'est permis parce que tu sais, la loi, puis il y a probablement plusieurs auditeurs qui vont apprendre ce matin que la loi me permettrait, moi, de me promener seins nus sur la rue Sainte-Catherine. Sauf que je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je vais faire l'objet d'une attention qui ne me tente pas. Je vais être décriée sur les réseaux sociaux. Je vais refaire la une Journal de Montréal, tu vois, c'est pour toutes ces raisons-là qui font en sorte que probablement qu'il y a plusieurs femmes qui disent non. Et celles qui disent oui, ce qu'elles revendiquent, c'est le droit à l'indifférence. Que j'ai une poitrine, ça
ouais,
ne devrait pas déranger
okay, Nathalie, mais c'est là que ça marche pas.
Toi,
c'est,
Luc Ferrandez.
Nathalie, c'est là que ça marche pas. C'est pas vous de décider ce qui nous excite ou pas. C'est pas vrai, ça. Premièrement, excuse-moi, on va mettre les termes de la question. Là. Ouais. Premièrement, il y a beaucoup de femmes qui montrent leur sein pour exciter des hommes. D'ailleurs, l'Internet en est plein. Tu sais,
oui, mais c'est une autre chose.
Excuse-moi, j'ai pas terminé.
Ouais,
bah oui. Tape braless dans Internet, tape down blouse, tape showing tit at store or restaurant. Il y a plein de femmes et c'est tout à fait normal qui, en tout cas, c'est pas normal peut-être, mais du moins c'est dans la continuité de la vision qu'on a des seins depuis des décennies et des siècles qui montrent leurs seins pour exciter. Alors, quand une partie des femmes qui montrent leurs seins parce qu'elles s'en servent comme un attribut sexuel de façon très intelligente parfois, là, tu regardes sur le tapis rouge des Oscars ou des Césars ou de Cannes, une révélation qui n'en est pas une révélation qui semble le montrer mais ne le montre pas. Tout ça, c'est un jeu sexuel, c'est un jeu de séduction qui existe chez une partie des femmes. Alors que d'autres femmes disent ce n'est pas un attribut sexuel, mais nous, les gars, on est pris entre les deux feux. Et donc, tu peux pas dire, ah, elle pour elle, non, ça n'est pas une séduction. Elle pour elle, oui, c'en est une. Tu peux pas faire ce choix-là. Deuxièmement, c'est pas une femme qui va venir dire à un gars, ça ne t'excite pas. Sais-tu quoi? Même le gars, c'est pas lui qui se le dit à lui-même. Ce n'est pas l'homme qui décide, ni la femme qui décide ce qui les excite ou pas.
Oui, mais toi, est-ce que ça te rendrait inconfortable de voir, prenons l'exemple de Québec, parce que cette jeune femme, Héloïse Paquette-Poisson, probablement ne savait pas que ça allait susciter autant de réactions. Elle faisait du macramé sur un banc de parc. Elle a décidé d'enlever son T-shirt. Elle n'avait pas de soutien-gorge. Les policiers sont venus la voir. Elle a été interpellée parce qu'il y a une plainte d'une dame. L'histoire a dégénéré d'une certaine façon. Et là, ça a créé toutes ces réactions qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que ça te dérangerait, toi, de voir une jeune femme sur un banc de parc seins nus faire
Non, pas du tout. Puis je vais t'avouer que moi, non seulement ça ne me dérange pas, mais ça ne m'excite pas du tout. À partir du moment où une femme montre complètement ses seins, pour moi, ça ne m'excite pas. Je l'ai vécu en Europe, etc. Je trouve que, rendu là, je vois bien que ce n'est pas une tentative de séduction.
Voilà, exact, c'est
mais,
ça.
Mais moi, je n'ai pas 16 ans, là. J'ai 60 ans. J'ai 59 ans. J'ai pas 16 ans.
Et ben, quelle est la différence?
Qu'une femme décide, que les femmes disent, ça n'a pas à vous exciter, et si ça vous excite, ben, contrôlez-vous. Premièrement, ça n'a pas à vous exciter, c'est pas vous qui décidez. Ça, c'est même pas les hommes qui décident, ça, premièrement. Deuxièmement, contrôlez-vous. Bien sûr qu'on va se contrôler, on fait juste ça, se contrôler. Il n'y a aucun problème avec ça. Sauf que, ça envoie quand même un message. Puis ce message-là, c'est, pour certains gars, c'est très positif. Ça va être, wow, c'est cool, c'est le fun. Ça va peut-être générer de la libido qu'ils vont utiliser avec leur épouse. Fait que tout le monde est gagnant. Dans d'autres cas, ça va générer de la frustration. Ça va générer une vision de la, dans d'autres cas, ça va générer une vision de la femme qui est sexuée. C'est pas juste contrôlez-vous. Le message est trop court. Juste dire, juste contrôlez-vous, ça marche pas. La sociologie est plus complexe que ça.
Ouais, mais là, justement, le problème, c'est le message que ça envoie, que tu captes. Parce que le message que ces jeunes femmes qui souhaitent libérer les seins souhaitent envoyer, c'est de dire, il faut plus que le message qui soit envoyé soit un message de nature sexuelle. C'est le cœur du débat.
On s'arrête là-dessus. Au retour, la CAQ qui veut pas traduire son site Internet en anglais parce que ça coûte trop cher. C'est assez particulier comme argument, mais c'est ça qu'on a donné comme raison.
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, on a appris hier que la CAQ a refusé de traduire la nouvelle mouture de son site Internet. En fait, les nouveaux contenus qui seront publiés, notamment durant la période électorale. Donc, de traduire ça en anglais parce que, selon le porte-parole de la CAQ, ça coûte trop cher. C'est paraît que c'est ça l'argument. On sait que M. Legault a refusé un débat en anglais. Luc, tu penses quoi de tout ça?
Bougez!
Ça se peut qu'il y a quelqu'un qui a décidé que c'était trop cher au parti, mais après ça, la décision monte au chef du parti, puis que la décision, c'est François Legault qui l'a prise, donc ça devient politique. Alors, le message que ça envoie, c'est... Il y a deux messages. Premièrement, il y a un message qui est voulu. Il faut qu'au Québec, tu dois parler français. Tu es une minorité qui vit dans une société française. Tu peux parler ta langue autant que tu veux, mais tu pourrais être en communication avec le public, avec le gouvernement, avec la CAQ. Tu dois parler français autant que quelqu'un qui serait francophone puis qui vivrait dans le reste du Canada et devrait parler anglais. Ça, c'est le message rationnel. Mais ça envoie aussi un message d'intolérance. Et ce message-là, il a été vu dans le reste du Canada. Hier, CTV a fait passer ça coast to coast là, dans le reste du Canada. Puis dans le reste du Canada, il y a plusieurs éditorialistes canadiens qui ont commencé, mais qui ont accéléré depuis quelques années le Québec bashing, puis qui ont mis le feu aux poudres en ajoutant des interprétations ou même des faussetés sur l'état du traitement des minorités ici au Québec. Et donc, tu ne peux pas faire autrement de constater que tu envoies ce message-là. Est-ce que tu as envie d'envoyer ce message-là? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'envoyer ce message-là? Même si tu regardes juste les intérêts de la CAQ, là, pas du gouvernement du Québec, pas du Québec, juste la CAQ. As-tu envie d'avoir cette image-là dans le reste du Canada?
Ben avant 2018, c'est drôle, hein? Ça ne posait pas problème, les coûts pour traduire les nouvelles publiées sur le site Internet de la CAQ. Mais là, après l'adoption de la loi 96, oui, ça pose un problème. C'est peut-être vrai, effectivement, que ça commande un certain investissement. Mais le timing, excusez l'expression, est très mauvais. Parce que la perception qu'on a, c'est que les anglophones et la CAQ, c'est chien puis chat. Puis la perception qu'on a, c'est que la CAQ actuellement a décidé non seulement de bouder la communauté anglophone, mais c'est comme si elle avait largué la communauté anglophone. On a eu besoin de vous pour la campagne de 2018. Maintenant, savez-vous quoi? On est majoritaire. On va peut-être aller chercher 100 sièges à la prochaine élection. Ciao, bye, on n'a plus besoin de vous. Lorsque j'ai lu cette nouvelle, j'ai pensé à notre ami Bernard Drinville, qui est en conférence de presse cette semaine avec François Legault, parler du nationalisme ouvert de la CAQ. Alors là, je pose la question ce matin, si Bernard était avec nous. Bernard, Monsieur Legault, qu'est-ce que le nationalisme, ça veut dire quoi le nationalisme ouvert de la CAQ? Ça serait intéressant que le premier ministre nous explique ce dont il s'agit. Parce que moi, ce que je vois, ce que je perçois, c'est que la CAQ a un double discours. Officiellement, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On est le parti de tous les citoyens, qu'ils soient anglophones, immigrants, allophones. Mais officieusement, le discours que je perçois, c'est qu'il est tout autre. Il y a des gens qui se sentent pointés du doigt par la CAQ. Et d'ailleurs, ce matin, c'est intéressant parce que plus les jours passent, plus les semaines passent, plus on apprend des choses sur à quel point la réalité des anglophones, elle est nuancée. Ce matin, dans la presse, les jeunes anglos plongent. On apprend qu'il y a plus de 8 élèves anglophones sur 10 dans l'île de Montréal qui sont en immersion française au primaire. Imaginez, puis on apprend que les plus petits passent jusqu'à 85% de leur journée de classe dans leur langue seconde. Il me semble que c'est une bonne nouvelle, ça. Il me semble qu'on devrait s'en réjouir.
Mais oui, ça va bien. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là. C'est parce que si tu veux m'envoyer une image de parti ouvert, tu fais pas ça. En ce moment, dans le reste du Canada, il y a une dénonciation, il y a un problème qui se passe. Le Québec bashing a des accents progressistes. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui assument leur rejet ou leur haine du Québec. Ce sont des gens qui sont normalement progressistes puis qui considèrent que le Québec est une tyrannie qui est anti-immigration, anti-anglophone, anti-autochtone. Et si c'était ta perception, c'est ça du Québec, tu vois, toutes les lois, tu vas les analyser sous cet angle-là, la loi 96, la loi 21, la loi 40 sur les commissions scolaires, etc. Et ça génère pas un début de consensus dont un gouvernement a besoin pour calmer le jeu. Parce que, par exemple, la loi 21. La loi 21, tu dis, nous, regardez, c'est très prosaïque comme notre décision est prosaïque. C'est juste, on considère qu'un poste d'autorité, tu ne dois pas porter le voile. Ceci étant dit, le voile, on accueille les immigrants qui portent le voile, on les accueille à bras ouverts partout au Québec. On est d'accord avec ça. Il y a juste une limite, il y a juste une exception, c'est lorsque tu occupes un poste d'autorité. Si c'est ça le message que tu veux passer, c'est un message délicat. C'est un message qui est subtil, qui nécessite de l'écoute, qui nécessite du calme de la part de la partie adverse. Mais tu vas pas générer du calme en prenant ta petite maudite décision de ne pas mettre ton site en anglais, là.
Ben, la CAQ n'a pas tellement fait dans la subtilité. Là. Tu parles de perception du Québec à l'extérieur, en fait, au Canada. Moi, j'ai envie de te parler de la perception de la CAQ au Québec. Et je ne suis pas certaine que les Québécois, en 2022, ont le goût de jouer dans le scénario que construit la CAQ depuis 2018 autour du nationalisme identitaire. Revenir au fameux, là, le nous et, tu sais, nous et eux. Moi, je ne suis pas certaine qu'on a le goût de jouer dans ce film-là. Il y a tellement de défis qu'on a à relever comme société. Il me semble qu'on pourrait concentrer nos énergies ailleurs. Et moi, contrairement à ce que la CAQ va affirmer, la CAQ, c'est comme si la CAQ, tu sais, sa fameuse expression « diviser pour mieux régner ». Ils ont choisi cette voie-là. Puis malgré tout ce qu'ils vont nous dire pour démontrer le contraire, ce n'est pas ce qu'on perçoit et ce n'est pas ce qu'on ressent. Et je trouve ça extrêmement frustrant parce que je trouve ça contre-productif. Prenons l'exemple du dossier d'immigration. Comment vous pensez que les Latinos qui ont choisi le Québec, là, ceux qui viennent du Honduras, du Salvador depuis des années, là, ils sont nombreux à nous écouter. Là. Ça fait 35 ans, 25 ans qu'ils sont ici. Ils ne parlaient pas un mot français lorsqu'ils sont arrivés au Québec. Là, maintenant, c'est des citoyens qui parlent parfaitement français. Ils l'écrivent, ils sont intégrés à la société québécoise. Comment vous pensez qu'ils se sentent aujourd'hui lorsque la CAQ leur dit « Ah, savez-vous quoi? Maintenant, on va privilégier les immigrants qui parlent français avant de fouler le sol québécois. » Alors, on ne peut pas parler de nationalisme d'ouverture dans un contexte comme celui-là. Et je trouve ça très triste qu'on en soit rendu là. Marquez qu'il y en a qui vont dire « Bon, c'est bien, les anglophones ont l'épiderme un peu trop sensible. » Moi, je persiste et signe. La mouture du projet de loi 96, la première mouture était bonne. Mais à partir du moment où ils ont décidé de dire non, Dawson, de plafonner les admissions dans les collèges anglophones, c'est là où il y a une césure avec
Luc,
la communauté.
Mais là-dessus, Nathalie, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce
t'as le droit?
Oui, on s'est fait pour ça.
J'allais dire ça, oui.
C'est que, oui, on doit continuer d'essayer de favoriser les immigrants qui ont une connaissance du français. Parce que là, il y a une différence entre l'apprentissage du français et l'intégration d'un immigrant à la communauté française. Il y a des immigrants, tu l'as mentionné, qui réussissent très, très bien à le faire. Et il y a des immigrants qui n'y arriveront jamais, tout à fait. C'est clair que si tu choisis quelqu'un qui a été élevé en français, il y a plus de chances d'y arriver. Il y a 26 % des immigrants au total qui arrivent ici avec ils ont été élevés en français. Leur langue maternelle est le français. C'est juste 26 %. Les autres vont devoir s'intégrer. Mais cette intégration-là est à plusieurs vitesses. Là. Il y en a pour qui ça ne se fera jamais. Il y en a qui vont, en quelques années, ils vont s'intégrer dans le langage public utilisé. La langue au travail utilisée va être le français, mais la langue à la maison va continuer d'être leur langue d'origine, c'est bien correct. Il y en a quelques-uns qui vont virer vers l'anglais. Ça sera jamais autant qu'une personne qui arrive ici avec une langue maternelle française. Ceci étant dit, si tu fais ça, si tu prends les gens qui ont juste la langue maternelle française, mais tu vas toujours cibler les mêmes groupes. La France, la France, la Belgique, la Suisse, le Maghreb, donc Tunisie, Maroc, Algérie, Haïti, et l'Afrique francophone. Puis c'est sûr que tu te prives de d'immigration extrêmement intéressante dans le reste du monde, notamment l'Amérique latine, tu l'as mentionné, l'Asie, etc. Alors, c'est un dosage, mais on peut pas dire que c'est automatique, notamment avec le manque de ressources qu'on a, c'est automatique qu'il va y avoir intégration aux Français lorsque les immigrants avec une langue tierce vont arriver ici.
Merci à tous les deux. On vous retrouve demain pour la semaine vendredi.
C'est 23.